prendre sa parole à Sylvie Ascofaré, psychanalyste à Toulouse, qui va parler avec sous le titre « Le narcissisme à l'épreuve du transfert ».
Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Merci Claire et merci Sol. Alors, donc, le narcissisme à l'épreuve du transfert. Ai-je annoncé ? Alors, je préfère le dire d'emblée. Il y a un écart important entre le titre que j'ai adressé dans la précipitation. Est-ce qu'il m'a paru nécessaire d'élucider d'abord pour moi et secondement de proposer à l'élaboration collective de notre séminaire. Aussi, en lieu et place d'un exposé sur le narcissisme et le transfert, soit les deux notions qui sous-tendent le thème de notre soirée, il m'a paru plutôt préférable d'éclairer un point qui m'a toujours paru énigmatique et dont je garde la formulation en réserve. Maintenant, partons de la notion de névrose de transfert sur laquelle porte notre interrogation. Alors, je vais répéter beaucoup de choses qui ont été déjà dites, et par Claire et par Sol. Comme vous le savez sans doute, c'est paradoxalement à Jung que nous devons l'introduction, je crois en 1907, de cette notion de névrose de transfert dans le vocabulaire analytique en tant que catégorie nosographique qu'il oppose à celle de psychose. Il a fallu donc attendre quelques années pour que Freud s'approprie la notion, abandonne l'opposition névrose toxique versus névrose psychogène et promeuve l'opposition devenue classique en psychanalyse, névrose de transfert opposée donc versus névrose narcissique. Alors, on remarquera d'emblée que cette dernière opposition, donc névrose de transfert, névrose narcissique, ne conduira guère à l'abandon de toutes les catégories nosographiques présentées comme des formes ou des types de névrose, que ce soit les névroses actuelles, c'est-à-dire la névrose d'angoisse, la neurasthénie et l'hypochondrie, les névroses de caractère, les névroses dites d'échec, névroses de destinée, névroses traumatiques, etc., etc. Alors, cependant, je dirais que depuis la tombée en désuétude de la notion de névrose narcissique, à laquelle Freud va substituer celle de psychose d'une part, entendue en un sens restreint, c'est-à-dire la mélancolie, la paranoïa et la schizophrénie, pardon, et de psychonévrose narcissique pour la mélancolie pour l'essentiel, et la reconnaissance par toute la communauté psychanalytique de l'effectivité du transfert dans la psychose, on peut dire que l'expression de névrose de transfert est devenue l'équivalent exact des névroses freudiennes classiques, soit la phobie, l'hystérie de conversion, la névrose obsessionnelle, pour respecter l'ordre de Freud. Encore que pour la phobie ou hystérie d'angoisse, Freud lui donnait déjà un statut à part, ce que nous retrouverons avec l'idée de Lacan qu'elle serait plutôt une plaque tournante. Alors, il est remarquable que de sa vue d'ensemble des névroses de transfert, donc de 1915, que Claire a cité tout à l'heure, à ses articles nosographiques ultimes, je pense à névrose et psychose d'une part, et à la perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose d'autre part, donc depuis vue d'ensemble sur les névroses, des névroses de transfert, Freud a conservé sur la réalité de la, a conservé pardon la même perspective sur les névroses dites de transfert. Donc je vous renvoie à la synthèse lumineuse qu'il en propose au début de névrose et psychose. Alors sur ce fond, je dirais que le thème qui nous rassemble ce soir, où sont passés les névroses de transfert, peut s'entendre au moins en deux sens. Le premier sens est radical. Il attesterait que nous ne savons plus reconnaître, voire qu'il n'existerait plus de névroses de transfert. Autrement dit, qu'on ne rencontrerait plus, dans notre pratique, les névroses dites freudiennes, pour faire court. elle ne serait plus d'actualité, d'autres entités cliniques auraient pris leur place. Alors, le deuxième sens, sans aller jusqu'à cette obsolescence des niveaux de transfert, suggérerait plutôt l'idée que les dites névroses de transfert ont changé, ont muté, ont pris de nouveaux visages. Alors, même si ces deux sens ne sont pas équivalents, on peut dire qu'ils participent d'un même mouvement contemporain de mise en question, voire de mise en cause des catégories de la psychanalyse. La mise en question est nécessaire et légitime, parce qu'elle peut réveiller d'un sommeil dogmatique, comme disait l'autre. Sans compter qu'elle participe de la tâche qui s'impose à tout psychanalyste de penser la psychanalyse. À ceci près qu'il faut faire attention à ne pas céder au mode ou à la volonté d'inventer des concepts. Autre chose est la mise en cause de ces concepts freudiens, parce qu'elle conduit souvent, pour ne pas dire toujours, à la mise en cause de la psychanalyse elle-même. Je pense ici très précisément à Marcel Gaucher, j'aurais pu prendre Ehrenberg, par exemple, aussi. Donc à Gaucher, dans le travail de redéfinition de l'inconscient, dans son article qui s'intitule « Essai de psychologie contemporaine », la deuxième partie, « L'inconscient en redéfinition », donc, ce travail conduit Marcel Gaucher à la conclusion que la psychanalyse serait au fond incapable de continuer à organiser le champ de la psychopathologie dans la mesure où l'expérience de l'altérité qui tend à dominer désormais, je le cite, déstabilise la figure accréditée de l'inconscient, son repérage culturellement établi. Mais je dirais que le philosophe, l'historien Gaucher n'est pas psychanalyste, et que par conséquent, il n'est pas, comme devrait l'être, tout analyste responsable de la présence de l'inconscient dans le champ scientifique et au-delà. Alors, si je reviens du côté des analystes, je dirais d'abord que le plus surprenant, à mes yeux, est que ce qui se présente comme un tropisme contemporain, soit l'idée que les névroses freudiennes seraient dépassées, voire disparues, accompagnent la psychanalyse depuis fort longtemps. En effet, si l'introduction du narcissisme en 1914 ne modifie la nosographie freudienne qu'à la marge, je pense à la nomination de la mélancolie comme maladie de l'idéal, et les maladies de l'idéal, pardon, comme les psychonévroses narcissiques. Donc tous les grands mouvements ou courants analytiques qui ont suivi, de la psychologie du moi à ceux qui se prétendent post-lacaniens, ont peu ou prou abondé dans le sens d'un déclin des niveaux de transfert et ou de la promotion de catégories cliniques nouvelles, que ce soit les borderline, état limite, les personnalités narcissiques, etc. En France, paradoxalement, mais aussi très tardivement par rapport aux intuitions fulgurantes de Lacan sur la grande névrose contemporaine dans son article Les complexes familiaux en 1938, c'est Sacha Nacht qui donne le la sur ce thème dans son article célèbre de 1967, Guérir avec Freud. Un an donc avant les mois de mai, il proposait en effet la lecture et l'analyse suivante. Ce n'est pas tous les jours ou tous les soirs que je cite Nacht, mais cette fois-ci, j'y vais. « Notre époque, écrit-il, permet généralement à l'individu une plus grande liberté de la sexualité et les perturbations psychopathologiques que nous observons aujourd'hui découlent plutôt d'une agressivité excessive, mal contrôlée, comme en témoignent 1000 incidents de la vie quotidienne, altercations entre automobilistes, hargne à fleur de peau, besoin de critiquer tout et tout le monde, etc. Mais lorsqu'elle est réprimée, voire refoulée, cette agressivité est à l'origine des états dépressifs, dont le nombre semble augmenter de façon inquiétante. La dépression est le mal du siècle. C'est surtout le mal de vivre qu'elle exprime, cette difficulté d'être dont l'observation nous est devenue familière. Puis il poursuit. Une autre catégorie de névrosés que l'on rencontre plus fréquemment de nos jours est faite de ceux que l'on désigne comme, entre guillemets, caractériels, dont la personnalité tout entière est perturbée par des troubles du comportement sans que l'on puisse détecter d'autres symptômes spécifiques. Dépressifs et caractériels sont les cas que nous observons aujourd'hui le plus souvent. Ils ont pris la place des névroses caractérisées, obsessionnelles, phobiques par exemple, auxquelles s'appliquaient les techniques mises au point et strictement définies par Freud. Les statistiques démontrent bien ce glissement des névroses propre à notre temps et qui trouve sa source dans une forme de désespoir plus ou moins ressentie inconsciemment par tous, sans doute, mais dont un nombre toujours croissant d'individus devient conscient sans être en mesure de l'assurer. Et il conclut, et comment l'individu serait-il en mesure de l'assumer quand toutes les valeurs morales et spirituelles sont non seulement remises en question, mais dévalorisées, désagrégées par un doute qui les atteint pratiquement tous. Alors, je soulignerai juste pour l'instant que Nasht procède à une double substitution. Substitution de l'agressivité à la cause sexuelle et substitution de la dépression et des troubles du caractère au niveau de transfert. Cependant, cette substitution est présentée comme un glissement et le terme de névrose s'applique également de manière égale aux substitués et aux substituants, si je puis dire. On peut se demander dès lors ce qu'est une névrose si on refuse de la réduire à une simple pathologie psychique. Alors, si j'ai fait ce détour par Nasht, c'est moins pour souligner l'importance ou l'originalité de sa thèse que pour indiquer combien le mouvement du travail de Lacan s'est déployé dans un sens strictement inverse. En effet, comme je l'avais évoqué plus haut, c'est dès 1938, dans les complexes familiaux, que Lacan soulignait le déplacement identifié par Nasht. Puisque Lacan écrivait en 1938, je le cite, « Ces névroses, celles de la fin du XIXe siècle, qui ont révélé qu'elles étaient intimement dépendantes des conditions de la famille, depuis le temps des premières divinations freudiennes, semblent avoir évolué, ces névroses semblent avoir évolué, dans le sens d'un complexe caractériel où, tant pour la spécificité de sa forme que pour sa généralisation, qui est le noyau du plus grand nombre des névroses, on peut reconnaître la grande névrose contemporaine. Fin de citation. Alors, pour aller vite, je dirais que des complexes familiaux, au texte Le mythe individuel du névrosé, de 1952, Lacan s'efforce de montrer l'insuffisance de la seule référence à l'Œdipe pour rendre raison de la névrose. Selon lui, selon Lacan donc, il convient de supplémenter l'Œdipe de la seconde, je le cite, grande découverte de la psychanalyse, pas moins importante que la fonction symbolique de l'Œdipe, à savoir la relation narcissique. Alors, c'est dans ce cadre, celui de ses antécédents, que Lacan a développé ses frayages, autant sur ce qu'il avait avancé ce qu'il avait commencé par appeler, je le cite, les névroses familiales, que sur les névroses de caractère, voire les névroses d'autopunition ou les névroses de destinée. Alors, le remarquable et le surprenant reste, en mon sens, que contre toute attente, Lacan ne donnera plus suite à ce foisonnement de névroses, donc névroses d'autopunition, névroses de destinée, névroses de caractère, etc. Il ne va pas donner de suite à cela. Lacan ne donnera plus suite à ce foisonnement de névrose pour réserver tendanciellement le terme de névrose au seul névrose de transfert, utilisant toutefois ce syntagme de névrose de transfert aux deux sens qu'on trouve chez Freud, celui du pluriel, donc les névroses de transfert, phobie, hystérie, obsession, et la névrose de transfert, c'est-à-dire la névrose artificielle constituée autour de la relation avec l'analyste et dans laquelle tendent à s'organiser les manifestations de transfert. Alors, je forme l'hypothèse qu'avec le début de son enseignement, en 1953, Lacan va abandonner, s'agissant de la névrose, ce qu'on peut appeler la perspective psychopathologique, c'est ce que Claire disait au début tout à l'heure, qui fera les choux gras des tenants d'une conception médicale de la psychanalyse, en lieu et place de la névrose comme maladie, comme pathologie donc, la considération de la structure, au sens de l'équivalence entre structure et langage, et la centralité de la castration par rapport à l'Œdipe ravalé à son statut de mythe, vont entraîner, dans l'enseignement de Lacan, un virage radical dans sa conception de la névrose. Exit la névrose pathologie pour laisser la place à la névrose structure et à la névrose dans son rapport au discours, c'est-à-dire à ce qu'il va appeler par la suite le rapport de la névrose aux relations sociales. Il dira à la fin, dans un des séminaires, que la névrose tient aux relations sociales et donc au lien social. Il nous faudrait plus d'un séminaire pour épeler les différentes élaborations de Lacan sur la névrose question, la névrose réponse, la névrose défense, la névrose structure ou forme d'assujettissement, la névrose coalescence de la structure avec le sujet supposé savoir, la névrose borméenne, qui a été évoquée là aussi tout à l'heure, c'est-à-dire RSI plus le symptôme, plus le symptôme père, qu'il appelle réalité psychique, complexe d'Œdipe, etc. Je conclue. Il semblerait qu'il y a un accord largement partagé chez les cliniciens, analystes compris, sur la migration des névroses de transfert vers des pathologies toutes occupées par les phénomènes de corps, les conduites alimentaires problématiques, des conduites alimentaires problématiques, pardon, aux pratiques dites addictives. Une sorte d'illustration clinique de la montée aux élites sociales de l'objet petit a, cité Lacan, au point qu'on a pu vouloir substituer aux névroses freudiennes des sortes de néo-névroses, voire les névroses petit a, Kissler l'a pu l'avancer. Or, la prise en compte de la clinique contemporaine, qu'on la rapporte au déclin social de l'imago paternel, à la disparition des maîtres, à l'effacement des idéaux, ou à la dominance d'une subjectivité séparée, individualiste, consommatrice, prédatrice, pardon, doit-elle nous conduire nécessairement jusqu'à l'idée d'une pure et simple disparition des névroses de transfert? En vérité, une telle thèse, celle de la disparition des névroses de transfert, ne ferait qu'entériner l'enterrement de la catégorie de névrose elle-même, et avec elle, tous les modes d'assujettissement à la structure par lesquels le parler-être se situe par rapport aux questions fondamentales relatives au sexe, à la mort, au père et au savoir. Voilà.
Merci beaucoup Sidi. Alors, une petite question de passage avant notre discussion. Par rapport, dans ton texte, j'ai vraiment entendu le repérage par l'affect, c'est-à-dire la dépression, l'agressivité, les caractériels. Et je me suis dit, en fait, la névrose de transfert, justement, on pouvait la définir en laissant. Alors, on pouvait essayer de la définir de plein de façons différentes, mais pas par l'affect du tout. Enfin, c'était juste une question comme ça.